Chers auditeurs, bonjour. Nous revoici sur les ondes de Radio Le Spiegel pour l'émission Bien-être en Flandre. J'espère que vous avez passé un joli début de printemps et on est très heureux aujourd'hui de recevoir un monsieur. Un monsieur que vous connaissez déjà parce que il est intervenu un tout petit peu en même temps que son épouse, en même temps que Sabine, qui crée des jeux développement personnel et auquel Eric a participé pour le dernier jeu. Donc donc nous avons avec nous Eric De Wulf.
Bonjour.
Eric, j'ai tenu à l'inviter parce que il a plein de cordes à son arc et il va venir nous présenter un petit peu son parcours et pourquoi il est arrivé aujourd'hui à enseigner le shiatsu, à faire du développement personnel et à se passionner pour tout ce qui concerne en effet ce développement personnel. Voilà. Donc Eric, tu es installé à Ether.
Oui, tout à fait. On a créé une association à Ether qui s'appelle La Porte Vitale, avec un lieu dénommé Azure Shiatsu, où l'on accueille des personnes pour tout ce qui tourne autour du développement personnel, et où nous-mêmes, Sabine, dont on a parlé, et moi-même, on pratique des activités telles que le rêve éveillé et le shiatsu.
D'accord. Toi aussi, tu pratiques le rêve éveillé ?
Non, c'est Sabine qui pratique le rêve éveillé.
D'accord. Ouais. D'accord. Bon, on aura certainement l'occasion d'en reparler avec Sabine.
Oui, tout à fait.
On se fera un plaisir de l'inviter à nouveau pour qu'elle puisse nous parler des symboles.
Ah oui,
voilà, il y a des choses qui est vraiment un sujet passionnant. Donc, on vous serait encore régulièrement sur les ondes.
Très bien.
Donc, Alors, comment tu es arrivé à ce développement personnel ?
Oui, tout ça. J'allais dire, c'est un chemin de vie, en fait. Donc, si je prends le départ, c'est la naissance, et après les parents. Souvent, c'est ce que je vois, c'est que tout vient normalement au départ des parents. Et j'ai beaucoup posé la question entre mes deux parents, ma mère qui était toute émotion, donc qui libérait tout ce qu'elle avait en elle, et mon père, au contraire, très rationnel, avec des bases de science, etc. Donc ma question, ça a été pendant des années. Quel est le chemin entre ces deux postures, en fait?
Qui je suis?
Voilà, c'est ça. Vraiment, c'était vraiment ma question, parce que pendant longtemps, je me suis vraiment posé cette question, qui je suis? Et donc, c'est fondamental, puisque ça touche également à la spiritualité. Donc, pendant des années, j'ai cheminé sur cette question, jusqu'au jour où, en fait, en passant un livre à Sabine, ce qui est un livre d'Arnaud Desjardins sur un enseignement spirituel, elle m'a dit, pourquoi on n'irait pas voir le centre d'Arnaud Desjardins? Donc je dis, oui, pourquoi pas? J'étais très fusionnel, donc je suivais ma femme. Et donc on est allé là-bas, donc ça se trouve encore, même si Arnaud Desjardins est décédé depuis, à Saint-Laurent-du-Pape. C'est un ashram où il est délivré tout un enseignement sur l'instant présent et la transcendance, au fait, comment on se relie à la vie, en fait. Donc ça m'a donné plein de réponses, et même, pourquoi pas dire, des certitudes sur mon chemin. Donc, à partir de cet enseignement qu'on dénomme Adhyatma Yoga, avec certaines lois à appliquer, puis certaines pratiques, j'ai pu vraiment faire un développement intérieur. Donc, au départ, j'avais fait peur à Sabine quand je l'ai rencontrée, parce que je lui avais dit, je voyagerai dans le monde entier. Donc elle a dit, oh non. Et en fait, j'ai fait un voyage intérieur, et on est resté sur place, et finalement, ça lui a bien convenu, et on s'est entendu. Et on a chacun, finalement, mené un chemin assez parallèle de développement personnel.
D'accord. Et donc, un petit peu à la fois, tu t'es initié à cette forme de yoga qui est particulière, parce que peut-être que tu peux expliquer aussi toutes ces formes de yoga, en fait. Le yoga qu'on connaît plus particulièrement chez nous, qui a un petit peu, on va dire, vulgarisé le yoga. Et puis le yoga qui était un petit peu reconnu en France comme étant une source de relaxation et tout ça, en oubliant un petit peu la force et la puissance du yoga.
On popularise souvent certaines traditions orientales qui sont en fait complètement spiritualisées, au fait, au départ. Bon, ça permet déjà à l'Occident de connaître ces approches qui permettent de se recentrer sur la personne. Alors en yoga, il y a plein de sortes de yoga. Il y a Iyengar est décédé il y a pas longtemps, qui était un yoga assez physique. Il peut y avoir des yogas très doux. Là, on est sur un yoga où on a une transcendance qui est liée à vraiment l'instant présent.
Alors la transcendance, voilà.
On parle de transpersonnel, de transcendance. Enfin, souvent, je prends l'exemple de, on est sur un chemin qu'on imagine souvent horizontal, passé, présent, futur. Mais l'instant présent, c'est la liaison avec ce qu'on pourrait dire plus vertical, la verticalité de l'instant. C'est-à-dire, dans l'instant, voilà. Qu'est-ce que je suis dans l'instant?
Voilà. Voilà.
Donc ça, c'est.
Comment je suis vivant dans l'instant?
Alors, on peut, souvent, on dit spirituel, mais c'est comment je suis dans l'instant, en fait. Voilà. Et donc, à travers ce, il y a plusieurs lois de vie qui sont inspirées par ce yoga. Alors, ce yoga, l'Adhyatma Yoga, vient d'un maître spirituel qui est Swami Prajnapad. Voilà. Qui a connu, enfin, qui a fait connaissance avec tout ce qu'avait produit Freud. Donc, il a associé ce qui était intéressant pour les Occidentaux. D'une part, il parlait anglais. Et en plus, il avait une connaissance psychologique. Donc, il pouvait prendre l'être dans son entièreté, c'est-à-dire psychologie et pensée.
Et il pouvait parler aux Occidentaux
aussi. Et voilà. Donc, donc, il a eu plusieurs disciples. Donc, Arnaud Desjardins, dont on vient de parler, mais également, par exemple, Daniel Roumanoff, qui est le père d'Anna Roumanoff, pour ceux qui connaissent Anna, l'humoriste. Voilà. Donc, c'est toute une voie qui a pu être enseignée aux Occidentaux. Et Arnaud Desjardins donc a importé ça en France et a pu partager cette richesse parce que ça c'est vraiment une richesse de vie en fait. Donc après je peux détailler.
Qu'on va faire c'est que on va peut-être voir un petit peu donc ton parcours comment et puis tu as voulu illustrer aussi ce parcours par une chanson.
Oui.
Donc tu peux nous en parler peut-être la chanson que tu as choisie.
Oui, c'est Salut aux monstres. Donc c'est Gilles Farcé, c'est un collaborateur d'Arnaud Desjardins qui nous présente dans cette chanson le besoin de s'affronter à nos points noirs. Quand on est adolescent, les points noirs, c'est plus fréquent. Mais sinon, c'est nos zones d'ombre, tout à fait. Et en fait, soit on reste dans notre zone de confort et sans, en ayant peur de ces points, mais finalement, ils viennent de toute façon un jour. Et quand ils viennent et qu'on n'a pas prévu, souvent, ça déstabilise beaucoup la personne. Tandis que quand on a travaillé sur soi, on est plus en capacité de les accueillir, ces monstres. Et donc, il y a un prix à payer pour découvrir ces monstres, et c'est aussi ce que présente Gilles Farcé.
Voilà, cette chanson. Donc, cette chanson s'appelle « Salut aux monstres ». Donc, c'est Gilles Farcé et qui a écrit les textes, qui chante, et Pascal Pourré pour la musique.
Au tout premier abord, chacun semble si vrai. Si on serre un peu fort, on s'approche un peu près. Le masque se déchire, et que voit-on surgir? Horreur et abomination, les monstres entrent en action. Il y a des gens bien, mais de moins en moins. L'écrasante majorité sert le cauchemar climatisé. Salut aux monstres! Faites place aux monstres. Sous le vernis joli, les faciès fardés. Sous les propos polis de la bonne société. Au fond des décolletés, les égéries branchées. Comme les cœurs étriqués, les vieux enfants blessés. Il y a des gens bien, mais de moins en moins. L'écrasante majorité sert le cauchemar climatisé. Bienvenue aux monstres. Faites place aux monstres. Au sein de nos familles, misérables baisers, des commodes fourmis, de hontes inavouées, des cadavres pourrissent sous des planchers lustrés, et les fantômes gémissent sous le poids de leurs draps souillés. Il y a des gens bien, mais de moins en moins. L'écrasante majorité. Le cauchemar climatisé. Salut aux monstres. Faites place aux monstres. Maintenant la croissance pour oublier l'absence. On prône la reprise tandis que l'on s'enlise. Les propos lénifiants cachent l'écrasement dedans.
Sous les rouages huilés, la machine est grippée. Il y a de quoi flipper. Faire exploser toute cette hypocrisie. Il y a des gens bien, mais de moins en moins. L'écrasante majorité sert le cauchemar climatisé. Salut le monstre! Faites place au monstre!
Revenu sur l'antenne de Radio Neue Spiegel 91.8 avec Eric De Wulf. Après cette jolie chanson très dynamique. Tout d'abord, avant de continuer, j'aimerais tout de suite remercier Anne parce que j'oublie souvent de le faire. Donc merci beaucoup Anne à la technique. Et puis on va revenir avec Eric et Eric va un petit peu, tu vas essayer un petit peu de nous expliquer un peu ce que c'est que le yoga, et particulièrement ce yoga-là, ce qu'on peut aller y chercher, comment on le pratique, est-ce que ce sont des postures, est-ce qu'on fait de la gymnastique, est-ce que, voilà, hein, expliquer un tout petit peu plus ce que c'est que le yoga, parce que tout le monde pratique pas. Et en fait, en France, on perçoit ça tellement comme de la relaxation, ou une forme d'assouplissement du corps, que quelquefois, on sait pas trop ce qu'on peut aller y chercher. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, justement, au départ, toi, comment tu as vécu ça, comment tu as découvert, parce que ça doit pas être toujours évident non plus de garder des postures, ça doit... Comment ça s'est passé, alors, pour toi ?
Donc, ça a commencé en 2002, où là, j'ai pu suivre cette voie. Donc, c'est... Quand on parle de posture, c'est plus une posture intérieure. Donc, la base, c'est la vigilance. Donc, être conscient de ce que l'on fait et le oui à ce qui est. Donc c'est, alors ça apparaît des mots simples, mais vraiment le oui à ce qui est, ça veut dire accueillir tout ce qui est. Et la plupart du temps, même très très souvent, on est dans le refus de ce qui est, en voulant autre chose que ce qui est.
Parce que souvent, on est soit dans le passé en train de ruminer, en se disant que ça aurait pas dû se passer comme ça, ou qu'on aurait dû faire
autrement.
Ou soit on est dans le futur avec nos peurs, avec la crainte du futur, ou avec l'énervement, si c'est quelque chose qui
va arriver.
Et on n'est pas du tout en train de vivre ce qu'on en... En fait, on n'est pas présent à nous-mêmes.
Si on regarde, la plupart des pensées sont en décalage avec l'instant présent.
Voilà. Donc toute la force du yoga, c'est de ramener la personne, et puis énormément de techniques, d'ailleurs, qui sont issues du yoga, souvent. Mais c'est de ramener cette personne au présent et qu'elle puisse être là dans l'instant de ce qui est en train de se passer dans son corps, dans sa vie.
Donc le premier outil, c'est la méditation. C'est d'être avec soi-même. Donc là, si on peut détailler la méditation, mais c'est une posture là assise et où la base, c'est déjà de ressentir la respiration et ensuite ce que le corps peut nous dire.
C'est-à-dire qu'avec la respiration, on prend conscience qu'on est vivant là.
Déjà, on calme les pensées. La première, c'est souvent les pensées sont des chevaux fougueux, et donc là, on calme les pensées. Et rien déjà de se poser dans le corps. Et ça permet ensuite d'avoir ce qu'on appelle un regard sur ce qui vient. Il y a actuellement une vidéo qui circule sur Internet, c'est aussi un ancien spirituel qui s'appelle Muji. Il prend l'exemple des essuie-glaces, quelqu'un qui apprend à conduire, et finalement, quand il pleut, il n'avait jamais eu cet événement-là, et il donne des à-coups, il suit les essuie-glaces au lieu de suivre le chemin. Et donc c'est assez dangereux. Et c'est ce qu'on vit en fait, c'est-à-dire on suit nos pensées, qui souvent sont fausses et empreintes d'émotions, et on donne des à-coups dans notre vie, alors que le chemin est beaucoup plus libre que ça.
En fait, on regarde au-dessus de l'événement, plus loin que l'événement qui est en train
de se... Voilà, on est comme le nuage qui passe, on s'accroche au nuage au lieu que de regarder la beauté du ciel, en fait.
D'accord. Donc, en fait, pendant la méditation, c'est ce temps, justement. Mais est-ce que, en fait, on laisse passer les pensées, on ne les suit pas?
C'est ça. On regarde. Parce qu'en fait, on est spectateur d'eux.
On contemple.
Voilà. Hein. Et c'est vraiment ça, contempler. Ça veut dire qu'il y a un goût derrière. Mm. Ah oui, il y a ça. Il y a quand même cette notion de découvrir.
Mm. Toujours un regard nouveau sur ce qui est en train de se vivre.
Découverte et accueil.
D'accord. Ouais. Donc, cette forme de yoga-là dont tu nous parlais, je vais mal le prononcer, c'est Adhyatma. Adhyatma yoga. C'est plus un yoga de posture figée où on est dans...
Il y a également des exercices, dans l'enseignement qui est pratiqué, il y a également un travail sur le corps, mais c'est un ensemble. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que du travail sur le corps. C'est un travail sur le corps. Un travail sur les émotions, et là il y a des affaires, parce que colère, tristesse, peur sont les principales. Et ensuite le travail sur les pensées, qui pour moi c'est le plus dur en fait, parce que ça vient de très loin et c'est des choses qui tournent en vaut.
Puis ça fait partie de notre culture aussi.
Oui, on a vraiment sur tout ce qui est... En plus, comme je disais avec mon père qui est rationnel, il y avait toute cette notion de pensées qui sont intéressantes, mais qui souvent tournent en boucle.
Oui, d'accord. Donc pour toi, tu as découvert ce yoga et tu as continué à évoluer à travers ce yoga et ça a été jusqu'où cette histoire?
Alors, dans ce yoga-là, il y a également une approche parce qu'on a des nœuds. Parce que pour les Occidentaux, ce qui est souvent remarqué, c'est qu'il y a des nœuds psychologiques. C'est-à-dire qu'on n'est pas, entre guillemets, normaux dès le début et donc il y a des choses à travailler au niveau de la psychologie. Donc c'est surtout travail sur les émotions. Donc j'ai dû faire un travail, donc j'ai été accompagné pour cela avec Christophe Massin qui a été reconnu comme auteur avec le prix FNAC il y a 2 ans. Alors, on travaille sur les émotions. Ça m'a pris quand même plusieurs années.
Oui, j'imagine.
Plus de 10 ans, j'allais dire. Ouais. C'est pas fini, mais
voilà. C'est ça qui fait la beauté.
Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a des peurs qui sont tombées et la liberté après de pouvoir vivre est quand même plus grande.
Parce que les peurs sont paralysantes.
Alors lui dit... De toute façon, au départ, on travaille sur la colère, tristesse, ce qui est déjà beaucoup. Et une fois qu'on a vu ça et traversé certaines colères, certaines tristesses, on peut commencer à toucher aux peurs. Et là, c'est vraiment le plus dur, c'est ce qu'on ne veut pas voir. Les peurs, on ne veut pas les voir. On parlait des monstres tout à l'heure, les monstres, ce sont les peurs. Et plus on les écarte, plus on pense se sentir mieux, en fait. Mais elles reviennent, évidemment. Ouais.
Tant qu'on n'a pas tué la peur.
Ouais, traverser, donc être en contact. Donc, alors, il y a une technique qui s'appelle le lying. Donc, Denise Desjardins a promu cette technique et d'autres personnes aussi. Donc, Christophe Massin faisait des lying et on faisait du travail en groupe. Donc, c'est des techniques où on associe le corps, l'esprit et puis les émotions, où on laisse vraiment venir tout ce qui vient. Donc, ça va du cri, des larmes, le corps peut s'agiter. Et là, des choses montent et qu'on ne soupçonnait pas du tout. Et je peux en témoigner parce qu'il y a des fois où il a fallu quelques personnes pour me retenir avec la force animale qui sortait. Et là, on se rend compte qu'il y a des choses en nous qu'on ne connaît pas et qu'on apprend à découvrir. C'est pas toujours très agréable, ça faut le dire.
Le chemin n'est pas...
Il y a un prix à payer dans cette voie, mais dans toute voie, il y a un prix à payer.
Oui.
Et à travers ça, on découvre tout ce qu'on porte en nous. Moi, je peux te dire qu'il y a tout ce qui est abandon que j'ai pu travailler. On en reparlera par rapport au shiatsu, parce que je suis venu par rapport à ça. L'abandon, mais en fait, les parents ne s'en rendent pas compte. Mais un enfant qui laissait une heure ou quelques heures tout seul peut vivre un état d'abandon et vivre un traumatisme.
Et sans que le père et...
Sans que personne s'en rende compte, en fait.
Et sans que les parents pensent mal. Hein,
voilà. Et donc, j'ai pu revivre...
Alors, c'est l'enfant qui se construit comme ça.
Tout à fait. Et donc, j'ai pu revivre, alors que j'étais très rationnel, des choses qui, pour moi, ne l'étaient pas du tout. Des événements. Alors, il y a des événements que j'ai pu vérifier dans ma vie, qui ont existé, que j'avais oublié, et d'autres que je pourrais... Enfin, j'ai pas de preuve que ça se soit passé, quoi. Et il y a des gens qui peuvent revivre une naissance, des gens qui peuvent revivre des moments importants. Et ça, par exemple, ça peut, enfin, c'est une anecdote toute simple, mais j'arrivais pas, ma femme me prenait la main et c'était très dur pour moi de la lui laisser.
Ouais,
et donc, j'ai pu revivre et j'ai appris récemment que c'était à l'âge de 3 ans où mon père avait eu un grave accident et le policier était venu avertir ma mère et ma mère a serré ma main à ce moment-là.
Ouais.
Et j'étais à côté d'elle. Ouais. Et je me souviens de l'image du policier.
D'accord. Et donc voilà.
C'est une explication, mais pour moi, elle est véritable puisqu'elle est intérieure et ça m'a permis d'expliquer, ce refus de ce moment-là, en fait.
Ouais. Ouais. Tout s'inscrit en nous, en fait.
Alors, plus j'avance, plus je... Oui, c'est certain.
S'inscrit. C'est aussi ça qui fait la force de notre expérience.
Exactement. Hein? Ils sont en train de le démontrer scientifiquement, parce qu'il y a une émission récemment que j'ai vue où ils démontrent que les traumatismes s'inscrivent dans les gènes.
Oui,
et que les gènes s'expriment souvent à la deuxième génération après. Donc ça explique qu'il y a du chemin à faire pour transformer ce qui a été dit.
Je complète un petit peu justement avec ma propre expérience. C'est-à-dire qu'on travaille en sophro et en sophrologie, mais aussi en généalogie. Hein, on travaille aussi là-dessus. Et en fait, quand quelqu'un travaille, il libère la première génération, s'il n'y a pas déjà de deuxième génération, et il libère la deuxième génération, c'est-à-dire les petits-enfants, si lui-même fait ce travail. Et ça, c'est reconnu aussi. Donc, voilà,
et dans les stages que j'ai pu faire en constellation familiale, on voit ça aussi.
Voilà, exactement. Hein, donc, en fait, quand on travaille pour soi, on travaille aussi pour ses enfants, ses petits-enfants. Et ça, c'est aussi important d'en prendre conscience.
On l'a vu avec nos enfants.
Voilà. Bien sûr. Mais moi, je l'ai vu, par exemple, par rapport à mon propre travail, je l'ai vu par rapport aux générations avant aussi. Hein, parce que tout le travail qui est fait libère aussi non seulement les générations avant, mais les générations après. Et puis aussi tous ceux qui en bénéficient à côté de vivre avec quelqu'un qui est plus posé, plus mieux dans sa peau. Hein, donc, voilà. Donc si évidemment, c'est un travail qui est...
Justement, par rapport à ce yoga, une des lois fondamentales, c'est que l'autre est différent et on ne change pas l'autre.
Non.
Et donc, on ne change que soi. Et c'est en changeant soi que l'autre commence à changer sa posture, en fait.
Voilà. Exactement.
Et ça, j'ai pu le vérifier plusieurs fois. Et alors, ça veut dire tout ce qui est jugement, comparaison, etc., on peut faire une croix dessus parce qu'en fait, on n'est pas dans l'autre et on ne peut pas le comprendre. Et ça, ça a été un déclic, parce que c'est la personne qui m'a dit ça, m'a dit, on parlait de la fusion, vous êtes assez fusionnel, l'autre est différent, ce serait bien que vous commenciez à changer. Et à l'époque, dans ma zone de confort, je dis, ah bon, faut que je change, mais vous croyez vraiment?
Et c'est là où je suis bien.
Ah, voilà, enfin, j'étais bien, mais en fait,
C'est ça. Dans l'idée, mais c'est confortable.
Tout à fait, mais j'étais timide, et finalement, j'étais pas sociable, enfin, il y a eu tout ça, quoi.
C'est-à-dire que le problème, c'est de faire la différence entre ce qui est confortable, et c'est pas parce que c'est confortable que c'est agréable.
Voilà. On se met des murs qui nous permettent de nous protéger, mais par contre, avec ces murs, on n'est pas ouvert à l'ensemble du monde et aux autres. Donc, c'est en fait, finalement, la liberté, c'est d'être ouvert à ce qui vient et ce qui est. Quoi.
Voilà, exactement. Bien. Donc, encore quelques mots, peut-être,
dans, pour expliquer. Oui, parce que dans ce yoga, il y a trois aspects. On vient d'en parler, de l'autre est différent. Donc, c'est ce qu'on appelle la loi de la différence. La loi du changement. Chaque instant est différent. Donc, ça veut dire qu'on pense souvent, ah, si j'ai fait ça, ça va se reproduire. Mais non, pas du tout. On peut toujours tenter quelque chose en nous-mêmes et changer. Donc, tout est changement. Donc, ça veut dire aussi... oui, c'est vous.
Mais c'est super.
Oui.
Ça fait peur.
C'est la richesse.
Mais quelque
ça fait
part,
peur. Parce qu'on est toujours c'est en train de construire une identité. Mais cette identité, on la veut qui dure. Sauf qu'on sait qu'il y a la mort. Bon, donc elle ne va pas durer. Mais on a quand même envie que ça dure.
Voilà.
Et en fait,
D'où la peur du vieillissement.
La peur de tout. Et d'où les peurs, en fait. Voilà. Toutes les peurs, ça freine au changement. Et la dernière loi, c'est la loi d'interdépendance. Tout est lié. Voilà. Et souvent, avec ça, est lié aussi tout ce qui est réaction. Je fais la distinction entre action et réaction. L'action, c'est quand, par exemple, on est en état de méditation, il y a une action à poser pour sauver quelqu'un, etc. On va la faire. La réaction, c'est la précipitation et on est dans l'émotion. Et ce ne sera pas juste par rapport à l'état actuel. Voilà. Donc ça, c'est ces trois bases qu'on travaille
dans ce yoga-là. Ouais.
D'accord. Et donc, on a un enseignement répété pour que ça rentre et qu'on prenne.
Mais de toute façon, dans toutes les techniques, c'est la répétition.
La répétition qui fait.
Hein, c'est la force, c'est nécessaire.
Et la force de ce yoga, c'est ce que disait le Swami Prajnapad, c'est qu'il est applicable à tout moment. Il n'y a rien qui peut empêcher qu'on applique ça. Alors que ce soit en faisant des mouvements ou en étant en méditation, voilà, on peut toujours accueillir.
On a toujours cette capacité en nous de continuer le chemin.
Tout à fait.
Bon, très beau. Enfin, le yoga est de toute façon quelque chose de magnifique. Enfin, j'en parle un tout petit peu, pas spécialement de ce yoga-là en particulier, parce que ça a été aussi pour moi un des points de départ de mon propre cheminement. Donc, voilà. Donc, on va de nouveau passer un disque. Et puis après, Eric, il va pouvoir continuer à nous expliquer son chemin et comment il en est arrivé au shiatsu.
Tout à fait.
Son petit parcours. Et puis, voilà. Donc, je vous laisse écouter la musique. Mmh.
moi, ni les pages à écrire, ni de trouver les mots pour le dire, ne me ferait peur. Mais je me lâche la main, je m'éloigne de moi, je me retrouve au matin sur la mauvaise voie. Quand on se perd en chemin, comment venir à bout de ces efforts inhumains qui nous mènent à nous. Si j'étais moi, ni la femme que je suis, ni même l'homme qui dort dans mon lit, ne me ferait peur. Si j'étais moi, ni le démon que je cache, les idées noires, les flammes que je crache, ne me feraient peur. Mais je me lâche là.
Voici revenu sur les ondes de Radio Spiegel 91.8, toujours avec Eric qui nous a expliqué un petit peu son parcours, qui nous a aussi expliqué ce qui est la force du yoga et comment on travaillait avec le yoga, comment on pouvait avancer et comment on pratiquait le yoga. Donc Eric, tu as continué donc ton parcours après ce yoga, tu as continué vers une nouvelle technique directement, comment ça s'est passé ?
Alors, ça a été, c'est un long chemin, mais à travers ce chemin, c'est surtout ce que j'ai découvert. Donc, lorsqu'on a travaillé sur cet Adhyatma Yoga, j'ai pu voir toutes les blessures que je portais, et notamment une qui était assez forte, c'était l'abandon. Où, lors d'un travail de groupe, j'ai eu un état, on va dire, d'ouverture, avec une émotion très forte. C'était quelqu'un qui me prenait dans les bras et qui chantait. Donc, l'état de bien-être total avec la mer sans danger. Et là, j'ai lié ça avec cet état justement où j'étais en danger en étant tout seul, en étant abandonné. Donc, c'est vraiment un ressenti personnel, mais lorsque j'ai développé ça, j'ai pu découvrir tout ce manque de contact. Et donc, ce manque de contact, on avait fait un massage avec mon épouse et j'ai posé une question à la personne en disant finalement, j'aimerais bien aussi être en contact avec les autres. Ce qui me manquait depuis longtemps. Et il m'a dit, kiné, c'est beaucoup de travail, mais pourquoi pas shiatsu. Donc là, je suis allé voir, à Lille, il y avait deux écoles. J'ai rencontré donc Bruno Debienne, qui a été mon enseignant pendant 4 ans, où il m'a enseigné le shiatsu. Et donc, c'est un shiatsu que je peux détailler, qu'on appelle Matsunaga. En fait, si je peux expliquer un peu le shiatsu.
Oui, bien sûr. Tu es là pour ça.
Donc, shiatsu, ça veut dire pression des doigts. Voilà, ouais. Ça date du 20e siècle, début du 20e, sachant qu'en même temps, la pression des doigts, ça a des millénaires derrière soi. En fait, on peut supposer que même nos ancêtres utilisaient les mains pour soigner les gens. Donc, ça a été développé à partir de là. Au début, c'est passé d'un an en Chine, au Japon. Et au Japon, donc, ça a été nommé par Shiatsu, et il y a eu deux personnes qui sont vraiment sorties du lot pour développer cette technique, qui est Namikoshi et Matsunaga. Donc, Namikoshi a beaucoup défendu le Shiatsu, et on dit, je vais simplifier parce qu'après c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais il travaille beaucoup plus par grille sur le corps. Donc, souvent on dit c'est jusqu'à la douleur sensible pour que la personne ressente les choses. Et Matsunaga, lui, a beaucoup repris et associer la médecine traditionnelle chinoise et notamment la théorie des 5 éléments.
D'accord.
Voilà. Donc moi, c'est plus énergétique. On est plus en surface en général.
Donc toi, tu as choisi.
C'était plus ce shiatsu, ce qu'on appelle Matsunaga, donc plus énergétique et basé sur la théorie des 5 éléments. Voilà. Donc on suit les méridiens de la médecine traditionnelle chinoise qu'on retrouve en acupuncture. Et on travaille sur l'ensemble du corps avec tous les points. On estime à peu près 365 points qui sont liés les uns aux autres. Et donc, basé sur cette théorie des 5 éléments. Voilà, donc j'ai commencé à étudier ça, toujours en suivant le chemin d'Adhyatma Yoga. Et ça m'a vraiment permis d'avoir un travail personnel pour de plus en plus accueillir des gens sur le chemin du shiatsu. Voilà. Donc après, ce qu'on peut détailler, c'est également comment on travaille en shiatsu.
Voilà. Déjà, les personnes qui ne connaissent pas, comment ça se passe, voilà. D'abord, pourquoi on vient te voir?
Alors, c'est pour différentes choses, parce que le shiatsu, c'est quand même un outil. Alors moi, je le prends comme un outil, mais c'est un outil qui est très puissant. Les résultats sont assez forts. Alors, c'est reconnu comme
Je peux témoigner. C'est costaud.
Donc, les résultats sont. C'est reconnu comme médecine au Japon.
Oui.
Mais au Japon, la médecine, c'est plus dans une vision préventive. Alors, ici, en Occident, on a tendance à dire ça va pas.
Curatif.
Et on va en curatif. Néanmoins, donc, c'est pour ça que c'est utile. C'est aussi pour rétablir l'équilibre. Donc, c'est reconnu comme médecine au Japon et reconnu aussi par l'Union européenne comme une médecine, qu'on peut dire parallèle, même si moi, je n'ai pas de prétention de guérir aucunement, mais au moins d'accompagner, d'étendre les personnes. Voilà. Donc, souvent, il peut y avoir... il y a des gens en fibromyalgie, par exemple, qui ont des soucis de douleur fortes.
Donc, on peut te voir pour des problèmes physiques.
Oui, des problèmes... Après, des problèmes où on ne se sent pas bien. En fait, le but, c'est quand même... C'est toujours d'essayer d'arriver à une détente. Alors, j'explique souvent aux gens qu'il y a beaucoup de niveaux de détente. Et puis, pour l'avoir vécu, j'ai reçu une personne qui dit tout va bien, et j'appuyais une seule fois, et tout le corps, il tremblait. Donc, on peut imaginer les niveaux de détente en dessous à découvrir. Et donc, plus on va faire du shiatsu, plus on va travailler ensemble, plus les niveaux de détente vont être grands. Le simple exemple, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à dormir, et finalement, au bout de plusieurs séances, il va dormir pendant la séance. Donc, il va pouvoir contacter ce bien-être du sommeil.
Ouais.
Voilà. Donc ça peut, ça comprend énormément de possibilités. J'ai même des sophrologues qui viennent me voir pour accompagner leur démarche.
Oui, bien sûr.
Voilà, donc
oui,
c'est
bah, ça a été mon
voilà.
cas.
Et après, donc c'est des des gens qui ont des acouphènes, des gens qui veulent arrêter de fumer. Enfin voilà, c'est tout. Le but c'est vraiment d'arriver dans la détente à comprendre nos mécanismes en fait. Et on passe par le corps qui pour moi donne la vérité de l'instant. Parce que dans l'instant, le corps va réagir. Enfin, la personne va sentir des choses. Et à travers ces sensations, il va faire des contacts au niveau de son mécanisme mental en disant « Ah oui, il y a ça, il y a des images qui vont venir, voilà, etc. » Donc, voilà. C'est vraiment un ensemble.
On touche quelque chose avec le shiatsu qui peut être assez profond. Et enfin, je sais que moi, en tant que sophrologue, je peux envoyer des personnes à différentes techniques, mais dont le shiatsu, qui permettent, quand je sens que la personne bloque sur quelque chose, que voilà, même en sophro, j'arrive pas à aller plus loin, je me fais aider de techniques différentes, dont le shiatsu, et ça peut aider, puisque moi, ça a été mon cas, en fait, ça m'a permis de faire émerger un blocage que j'arrivais pas à situer. Donc, voilà, c'est... Alors,
pour
ça
avoir,
peut parler à l'être très profond
voilà.
qui est en
pour avoir discuté avec des sophrologues, effectivement, c'est des approches différentes, puisque là, on est sur le corps directement, et donc elle... Voilà, donc le corps va dire des choses et c'est important pour la personne de pouvoir voir ces choses-là, en fait.
Et la sophro, elle permet de pouvoir entendre.
Exactement,
voilà. C'est en ça que ça se complète.
Voilà. Donc, toute technique est bonne, il suffit qu'après, voilà.
De travailler intelligemment. Ouais. Donc la personne vient te voir. Et alors, comment toi, tu travailles avec ces cinq éléments? Moi, j'ai un petit peu de mal à comprendre comment... en général, avec cette médecine chinoise, comment on allie ces cinq éléments
La médecine chinoise, c'est tout un domaine extrêmement développé. Donc, le shiatsu reste à sa base. Après, ceux qui veulent développer la médecine chinoise vont dans d'autres domaines. Parce que si on veut, un médecin chinois va travailler sur les poux, sur la langue, etc. Là, shiatsu, on reste sur cette théorie des cinq éléments et les méridiens. Dès qu'il y a une nouvelle personne, moi, j'explique justement ces cinq éléments pour qu'ils puissent voir, en fait, tout est équilibre. Le but, c'est vraiment qu'entre ces cinq éléments, ça circule. C'est comme on parle du fleuve, se laisser guider par le courant, en fait. Donc, on a le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Donc, actuellement, on est dans le bois, c'est-à-dire ça représente le printemps, c'est le yang qui arrive et la force. Et à chaque fois, chaque élément est associé, alors évidemment à des méridiens, mais également à des émotions.
Oui.
Donc, par exemple, le bois, on est sur une force, mais si elle s'est pas équilibrée, ça va vers la colère.
D'accord.
Donc, en fonction de ce que la personne va me montrer et me dire, ce qu'elle veut partager, on va travailler plus ou moins sur les différents éléments. Donc, je vais continuer. Le bois nourrit le feu. Donc, le feu, c'est le zénith, c'est le soleil. Souvent, ça peut être une joie excessive, qui souvent, dans la joie excessive, après, ça peut se transformer en insatisfaction, etc. Donc, voilà.
Oui, c'est en déception.
Et en déception.
Voilà. J'y arrive pas.
Voilà. Après, le feu va nourrir la terre. Ouais. Au début, la terre était une intersaison. Donc, c'est elle qui faisait l'intermédiaire entre les quatre autres éléments. Et finalement, on le retrouve sur le cercle des cinq éléments. Donc, voilà. Cette terre, c'est vraiment l'ancrage. On travaille beaucoup sur cet ancrage, nos racines, voilà. Et c'est souvent associé également à tout ce qui est équilibre, concentration, réflexion. Ensuite, la terre nourrit le métal. J'aime bien l'image au niveau du métal, donc c'est ce qui va couper. Je prends l'automne, c'est la feuille qui se sépare de l'arbre. Donc c'est ce lâcher prise. Et ce métal est associé à la tristesse, parce que dans le lâcher prise,
c'est ce que tu acceptes de laisser.
Voilà,
en fait.
Exactement. Mais il y a toujours cette petite ce regret de choix. Finalement, qu'est-ce que j'ai bien fait, voilà. Mais la feuille, elle se laisse aller. Voilà. Donc c'est le lâcher prise. Donc c'est associé, par exemple, là on parle du métal, mais c'est associé au poumon, qui pour moi est la base au niveau respiration, en sophrologie, on travaille beaucoup ce qui est poumon. Donc la respiration, voilà, c'est la base.
Ouais.
Et ensuite, on arrive à l'eau. Alors là, c'est associé aux peurs. C'est tout ce qui est profondeur, les ancêtres, le passé, etc. Donc souvent, par exemple, les gens me disent « Ah bah, j'ai du mal à vivre l'hiver », mais voilà, on peut comprendre associé à tout ça.
Donc, et puis l'hiver est associé à la mort aussi.
Oui, mais c'est ça, tout à fait.
Voilà, hein.
Donc,
c'est comme la peur.
Mais dans ce cycle-là, la mort, alors c'est toujours ce que je dis, il n'y a pas de négatif ni de positif, c'est du yin-yang, c'est toujours ensemble, tout fonctionne ensemble, et de la mort au renaît. Voilà. Et donc après, c'est le printemps. Voilà,
mais c'est ça en fait, quand tu parlais tout à l'heure de ce regard nouveau qu'on pouvait avoir, où on laisse venir, c'est se rendre compte qu'en fait, il n'y a ni positif ni négatif.
Oui.
En fait, il y a ce qui est, mais le négatif et le positif n'est pas en soi.
Voilà.
Parce que ce qui peut être négatif peut engendrer au contraire. Il faut peut-être passer par ces
paroles. J'insiste beaucoup sur ça parce que la plupart du temps, surtout le Dalai Lama disait, mais les Occidentaux n'ont pas confiance en eux et l'estime de soi, c'est perdu.
Et la confiance aussi en la vie, en la vie qui est autour de nous.
Tout à fait. Alors avec ce jugement, on a culpabilité, ah, je devrais être autrement, etc. Et en fait, non, c'est pas du tout ça. C'est dans l'instant, qu'est-ce que je suis et qu'est-ce que je peux porter pour transformer, pour être, voilà. Si on veut être différent, c'est dans comment on se construit, en fait. Mmh. Et c'est pas dans la crispation, et c'est dans la détente qu'on peut voir comment on évolue.
Comment on évolue, et puis comment la vie évolue autour de nous aussi. Parce c'est que quand on regarde un petit peu plus de plus près les choses, hein, quand on regarde comment les choses se sont structurées dans nos vies par le passé, on se rend compte qu'aussi la vie fait des choses qui permet que tout s'enclenche, voilà. S'emboîte.
Dans la Dhyatma Yoga dont je parlais tout à l'heure, il y a la loi d'attraction.
Voilà, oui.
Et donc, on
attire. C'est très à la mode.
Oui, oui, mais c'est une vérité. Enfin, voilà, après, ça dépend comment on l'interprète, voilà, hein, mais ce qui arrive à nous est là pour qu'on puisse le transformer, l'accueillir d'abord et le transformer ensuite. Mmh. Et c'est toujours une bénédiction. Mmh. Enfin, c'est à prendre, si possible, comme une bénédiction, parce que c'est pas, je suis c'est, d'accord, voilà. C'est pas évident. Mais bon. J'explique aux gens, quelquefois, ben, on en parlait aussi, la maladie peut vraiment apporter une transformation intérieure à la personne, et après, elle voit les choses complètement différemment.
Ah, donc, change sa vie. Hein, voilà. D'ailleurs, c'est souvent les personnes, on entend les personnes qui parlent, par exemple, d'une maladie, d'un cancer, ou de quelque chose comme ça, et puis qui disent, mais à partir de ce moment-là, j'ai commencé à vraiment vivre.
Alors, ce que je vois souvent, c'est qu'il faut vraiment que, quelquefois, les gens souffrent beaucoup pour qu'il y ait vraiment un début de changement. Ouais. Alors, bon, ce qui est mieux, et ce qui est plus facile, c'est de commencer à changer quand ça va bien.
Voilà. Mais là, on n'en ressent pas spécialement le besoin.
Et non, c'est ça.
Mais c'est aussi propre à notre culture aussi. Chez les Occidentaux ont besoin d'aller foncer dans le mur pour se rendre compte qu'il y a un mur.
Oui, ben c'est le Titanic, quoi.
Voilà, c'est ça.
Et donc, il y a cet aspect de progression, de progression dans la détente, donc de progression sur la connaissance de soi et de notre corps. Parce qu'en fait, là aussi, je le vois de plus en plus, c'est que les gens, avec les émotions, les pensées, stockent des nœuds dans leur corps, des tensions. Avec le shiatsu, on va pouvoir arriver à approcher ces tensions et se rendre compte que ben là, il y a un problème de circulation d'ensemble, d'équilibre. Et ça, j'ai souvent un retour à la fin du shiatsu. Ah oui, ça, j'ai senti une tension, ça a bougé, etc. Il y a une image qui est venue. Voilà. Et mon plaisir, en fait, de tout ça, c'est vraiment de voir qu'il y a des connexions qui se font entre la tête, les émotions et le corps. Pour dire, bah oui, une compréhension d'ensemble de ce que je suis et de ce que je peux devenir.
Ouais.
Voilà. Donc c'est un sacré programme.
La force, voilà.
Donc je peux très bien accueillir des gens qui demandent simplement du bien-être. Mais derrière, il faut dire qu'en moi, il y a toujours cette notion d'ensemble. Et le but, c'est quand même d'une évolution de la personne vers un.
Bah, disons qu'une personne qui va aller juste demander de la relaxation, pour le thérapeute, pour celui qui l'accompagne, on se dit. C'est un début, c'est un départ,
c'est sa liberté.
En tout cas, c'est une graine qui est posée.
Tout à fait. Donc moi, je suis de plus en plus, c'est ce que je ressens. Mais j'ai dû changer aussi ma posture. C'est-à-dire au début, on a tout de suite la volonté de guérir ou des choses comme ça. Mmh. Et en fait, on se rend très vite compte qu'on a, c'est pas nous qui décidons, et c'est la personne qui décide. Ouais. Nous, on est là, on apporte simplement un outil pour éclairer. C'est vraiment un éclairage qui peut être de différentes sortes. Ouais. Mais qui permet à la personne de
faire son chemin.
Je prends il y a l'image du on pense des images où on voyait une bergère cachée dans un paysage et il fallait trouver la bergère et on trouvait pas, puis dès qu'on a la bergère, après ça y est, elle est ancrée, on sait qu'elle est là et on n'a plus besoin de chercher et on sait voilà.
Donc, moi j'aime beaucoup utiliser aussi l'idée des graines, hein. En fait le thérapeute, enfin moi j'explique souvent que je pose une graine et c'est la personne qui choisit de faire germer cette graine et de la faire pousser. Et c'est un petit peu ça aussi, quoi. C'est l'idée, on a tout en soi et le thérapeute, il aide à juste pointer ce qui est en nous. Et qu'on puisse...
Cette image que l'arbre qui donne du fruit, un poirier va donner une poire et la personne doit petit à petit comprendre ce qu'elle va donner dans sa vie, partager aux autres.
Voilà. Donc c'est un joli
programme. Oui, c'est un programme. Et il y a juste une image aussi que je prends qui peut bien éclairer, c'est en shiatsu, donc on va toucher des zones et ça va changer. Donc je prends l'image souvent de l'aquarium qu'on secoue, qui va devenir trouble. Donc je préviens la personne, ça peut être très agréable, mais quelquefois ça peut être aussi un peu désagréable pendant un ou deux jours. Donc ce trouble, petit à petit, va retomber, donc ce sable se redépose, mais différemment. Ce qui fait que ça offre à la personne le moyen d'avoir des mécanismes, enfin de changer sa posture de vie par rapport aux événements. Mmh. Et après, c'est sûr, nos mécanismes font que, avec le mental, on retrouve certains mécanismes, mais ça lui permet à la personne pendant quelques jours de fonctionner différemment.
Mmh. Voilà. Et de prendre conscience qu'elle peut fonctionner différemment.
Voilà, tout à fait.
Hein, et ça peut être le
elle découvre,
de
voilà,
chose.
Tout à fait. Ouais. Alors, quelquefois, il y a des gens courageux qui ont été ça m'a vraiment bousculé. Mmh. Et reviennent, mais commencent à évoluer et à comprendre tout un dynamisme intérieur qui est vraiment riche, en fait, à découvrir.
En fait, c'est ça, hein, le message, je pense, à chaque fois dans cette émission, ce qu'on essaie de faire comprendre aux personnes, c'est que aller voir un thérapeute, c'est aller voir quelqu'un qui peut vous donner des outils, mais les outils, en fin de compte, c'est toujours la personne qui vient et qui les utilise ou pas.
Hein,
c'est vraiment.
Et plus il va y avoir confiance entre la personne, le thérapeute et la personne, plus ça pourra se développer, en fait.
Oui, mais il y a aussi le fait qu'il y a des méthodes qui conviennent et d'autres qui ne conviennent pas.
Tout à fait.
Le tout, c'est d'aller trouver ce qui convient à chacun, et c'est pour ça qu'il y a tant de méthodes aussi. Hein. Et c'est aussi pour ça que les méthodes, elles peuvent se compléter, s'aider l'une l'autre. Voilà.
Et après, il y a quand même la notion de, entre guillemets, de formation aussi, parce que quand on parle de shiatsu, il y a des gens qui peuvent avoir fait quelques week-ends de shiatsu, on appelle ça des katas, et ils font leur process, si on veut, de celui qui va aborder la personne dans un ensemble qu'on appelait holistique dans l'ensemble de la personne, et qui lui va quand même avoir une vision plus profonde de la personne et pourra l'accompagner de façon plus longue sur le chemin, en fait.
Ouais. Bien sûr. Oui, c'est toujours important, hein, il faut le répéter. Renseignez-vous sur la formation qui a été suivie par vos thérapeutes. Vous pouvez leur demander, il n'y a pas de souci. Il y a des formations qui durent plusieurs années et qui font que, du coup, vous avez des personnes qui sont en face de vous et qui ont des connaissances, qui ont aussi une expérience, qui ont eux-mêmes fait un gros travail sur eux. Et donc, il est important de vous renseigner pour savoir à qui vous avez affaire. Si vous voulez une relaxation, vous pouvez aller voir quelqu'un qui n'a pas spécialement fait 4, 5, 6 ans d'études. Mais si vous voulez vraiment faire un chemin, il faut avoir quelqu'un de sérieux en face de vous pour que cette personne soit apte à vous accompagner correctement.
J'aurais jamais eu l'audace, entre guillemets, pour moi c'était une audace d'accompagner des gens si j'avais pas fait ce travail-là dont on a parlé avec la Dhyatma Yoga, où j'ai pu vraiment découvrir ce qu'étaient les émotions, comment on pouvait les accueillir, comment on pouvait un peu changer nos pensées, nos mécanismes de pensée, et changer de ce fait-là nos actions dans la vie, en fait.
Bien sûr. Voilà. Et puis il faut savoir aussi qu'un thérapeute, il n'est pas fixé dans le temps non plus, et que le thérapeute lui-même continue à faire son travail sur lui-même.
Je continue.
Voilà, et moi de même. Et c'est justement ça qui est merveilleux. Voilà, donc... pour le shiatsu, pour vous avoir expliqué un petit peu ce que c'est ce shiatsu. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez donc contacter Eric, aller le rencontrer.
Tout à fait.
Donc, tu es installé à Ether.
Hein. Oui, je suis installé à Ether. Donc, le site, c'est azureshiatsu.com. Mm-hmm. Voilà. Et donc, par mail ou le numéro de téléphone qui est indiqué sur le site, on peut prendre rendez-vous et puis après.
Et puis prendre contact. Voilà.
Je suis, mes séances durent 1h30 à 2h, donc c'est quand même des choses assez complètes.
Voilà. Donc, mais on va passer une petite chanson et puis on reviendra après quelques instants pour que tu puisses nous donner ta petite actualité et puis rappeler aussi tes coordonnées. Que les gens aient le temps de prendre un petit papier et un crayon s'ils ont envie de te contacter. Donc, on va de nouveau revenir à ce disque Maison Brûlée de Gilles Farcé et Pascal Bourré dont on avait parlé au début de l'émission. Parce que tu as eu envie que l'on entende la volonté d'aimer. Voilà, tout un très joli programme que je vous laisse écouter.
Nous voici à l'aube de la maturité. Nos illusions détruites, tous les masques tombés. Tu n'as plus de défense, moi je suis fatigué. Je ne prétends plus rien. Sinon vouloir t'aimer, le passé pèse lourd, et dans l'intimité, nous sommes aveugles et sourds, seul peut nous sauver la volonté d'aimer. Nous nous sommes égarés, il est ruse le chemin pour apprendre à aimer. Il est rude le chemin pour apprendre à aimer. Que signifie aimer, sinon aimer quelqu'un au plus près de la peau, au cœur du quotidien. Tu es mon plus intime, mon plus proche prochain. Si je ne sais pas t'aimer, le mot amour est vain. Je ne suis pas un héros, je ne suis pas un saint, je ne suis pas un exemple, je suis un être humain. Ma fragilité, c'est de vouloir t'aimer. Toute ma fragilité, c'est de vouloir t'aimer. À chacun sa cuirasse, chacun sa stratégie. Au final, on se trouve tout aussi démunis et à égalité.
Voici revenu sur les ondes de Radio Neuspiegel. Alors pendant, bien sûr, on a écouté cette jolie chanson, hein, et je remercie Eric de nous l'avoir fait découvrir. Et pendant la pause, on a un petit peu parlé de un blog que tu as créé, Eric, et que j'aime beaucoup, que moi je suis et qui m'apporte beaucoup, où il y a des vidéos, où tu écris des textes, où tu reprends des textes. Et j'aimerais que tu parles un tout petit peu de ce blog, rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Mais...
D'accord.
Mais j'aimerais que tu parles de ce blog, parce que je conseille vraiment aux auditeurs d'aller voir, parce que ça peut être vraiment source d'inspiration, de réflexion aussi. Donc, et c'est un gros travail pour toi, en plus. Hein, ça fait des années que c'est rare de suivre un blog aussi longtemps.
Oui, ça fait depuis 2007, en fait, qu'il est créé. Et donc, tous les soirs, je publie
tu
un article.
Tous les jours depuis 2007.
Ouais. Donc, ça fait, qu'il y a 4000 articles.
Tenacité et la qualité, donc, surtout.
Merci. C'est un partage de mon chemin, en fait. Et aussi, ça permet d'ouvrir différentes choses sur ce dont on parlait tout à l'heure, l'instant présent et cette notion de se revenir vers soi. Donc, c'est souvent, on va dire, le but, c'est un blog de sagesse, entre guillemets.
Oui, voilà, exactement.
Donc, ça s'appelle Phytospiritualité.
Oui.
Voilà. Et là, j'ai été étonné, par exemple, ces derniers jours, il y a eu 1200 personnes dans la
journée. Oui, ça m'étonne pas. Il est de très grande qualité.
Qui sont venus.
On reste fidèles quand on découvre. Donc, Phytospiritualité.
Phytospiritualité. En fait, c'est pour associer les plantes.
Oui.
Qui sont aussi une passion chez moi, jardin et plantes.
Communes.
Et voilà. Et la spiritualité, voilà.
Okay. D'accord. Donc vraiment, je vous conseille d'aller voir ce blog. Bon, maintenant, on va vous donner un petit peu comment contacter Eric. Donc Eric de Wulf.
Donc le lieu, c'est Azure Shiatsu. Donc sur le site, c'est azureshiatsu.com. Mmh. Donc ensuite, vous pouvez appeler au 07 80 62 39 38 pour prendre rendez-vous.
Donc, redonne-nous le numéro.
Alors, le numéro 07 80 62 39 38. Voilà. Et sur le site, vous pourrez également trouver plusieurs ateliers dans l'année que l'on monte avec des gens qui viennent, qui peuvent venir du Québec ou d'autres endroits, pour toujours autour du développement personnel. On travaille beaucoup autour des jeux de Sabine, oui, de Wulf, qui est pour ces jeux qu'elle a créés récemment. Et également, on fait du journal créatif, on fait plein d'autres choses. Et on peut même monter des ateliers pour des gens qui souhaiteraient travailler sur certains domaines, avec tous les contacts que l'on a.
Voilà, voilà, sur ton lieu à Éther que vous avez créé.
C'est ça.
D'accord. D'accord. Donc, alors, tu as une petite actualité là.
Oui,
là. Alors là, tu sors d'un festival.
Je ressors du Salon du Livre de Bondu, là. Voilà. Et donc là, c'est surtout le week-end du 22 et 23 avril.
Voilà, donc un week-end très occupé pour toi.
C'est ça, hein, parce qu'il y a mes deux passions.
Le samedi, tu es à Dunkerque.
C'est ça.
Alors, le marché du végétal.
C'est ça, donc je participe à l'organisation du marché du végétal sur Dunkerque.
Voilà, donc ça, c'est une de tes passions.
Voilà, et donc là, c'est tout le week-end où vous pouvez découvrir tout ce qui tourne autour des plantes et du développement durable.
Oui.
Voilà, donc ça, c'est...
Ça se déroule où?
Alors, ça se déroule au parc Coquel à Dunkerque.
Château Coquel.
Un lieu très agréable.
Oui.
Voilà, et ensuite, donc ça, j'y serai le samedi. Par contre, le dimanche, je suis au festival du jeu de développement personnel.
Et qui se passe?
Qui se passe à Paris.
À Paris.
C'est avec le Souffle d'Or, l'éditeur. Et ça, donc, c'est des ateliers pour mieux se connaître. Et donc, Sabine et moi, on fera deux ateliers le dimanche autour du jeu des Trois Cheveux d'Or qui vient de sortir.
Très bien, très bien. Donc, un très, très beau programme. Eric, vraiment, je te remercie pour cette découverte de ce yoga-là que je ne connaissais pas.
Adhyatma yoga.
Voilà. Et puis aussi pour le shiatsu que je connaissais, par contre, pour l'avoir pratiqué, mais avec un bel éclairage.
Voilà. Je peux juste rajouter que j'ajoute aussi quelquefois, parce que je me suis formé à la sonothérapie, donc tout ce qui est bol tibétain. Voilà.
On aura peut-être l'occasion d'en reparler une autre fois.
Tout à fait.
Avec plaisir, en tout cas. Je te remercie beaucoup.
Merci.
Pour ta venue sur les ondes de Radio Neuspiegel.